Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz que vous présentez avec un enthousiasme assez touchant, presque naïf même. Peut-être aussi parce que vous aimez nous humilier en posant des questions farfelues, donc vous comprenez à peine le sens, parce qu'elles ont été livrées par Sébastien Bordenave il y a une demi-heure.
Calmez-vous, mon petit bonhomme, hein, parce que là, vous commencez à déraper. Allez, on joue tout de suite. On y va. On commence avec vous, Stéphane. C'est au début du XVIIe siècle qu'un scientifique hollandais du nom de Drebbel teste sur la Tamise une embarcation semi-submersible. En France, en 1863...
C'est Fulton.
De quoi Fulton?
Fulton, son premier et son sous-marin.
Si vous voulez, vous faites le boulot à ma place, ma bonne dame.
Je peux tout faire. Je suis extrêmement polyvalente.
Je vais vous dire, Clémentine, je vous maudis.
Maudit.
En 1863, ça va vous suivre longtemps, ce maudit. En France, en 1863, le premier sous-marin à moteur à air comprimé embarque 7 membres d'équipage.
Ah, en 1863?
Exactement. Déjà à cette époque, la lumière est rouge dans l'appareil. Depuis, dans les sous-marins, la lumière est toujours rouge, vrai.
Et dans les
ou
bateaux aussi, cher monsieur.
Excusez-moi, mais elle fait partie de l'émission, la dame, là?
Je ne la connais pas.
On est d'accord.
Elle est maudite.
Maudite.
Donc la question pour vous, Stéphane.
Alors,
est-ce que la
vous
lumière...
Vous pouvez répéter la question.
En 1863...
Est-ce que la lumière a toujours été rouge?
Non, c'est-à-dire que là, c'est une affirmation. Dans le premier sous-marin, la lumière était rouge. Depuis... Dans les sous-marins, la lumière est toujours rouge, vrai ou faux?
Ça a l'air trop évident que ce soit rouge. Donc, je pense qu'il y a... ça a changé de couleur, voilà.
On vérifie ça.
Vous avez gagné.
Bah, c'est pas vrai. Bah, c'est pas vrai.
Mais si, mais le problème, Clémentine, c'est que vous n'écoutez pas les questions. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de lumière rouge. La question, c'est est-ce que la lumière est toujours rouge? D'abord parce que donc, la lumière dans les sous-marins n'est pas toujours rouge. En fait, elle est rouge quand c'est la nuit.
Bah, c'est ce que j'ai dit.
Et blanche quand c'est le jour. Oui, mais vous n'avez pas écouté la question. Vous savez ce que vous risquez.
Bon, toujours, de perdre de points.
Là, voilà. Récemment, j'ai été moins brillante, hélas.
Parce que très péremptoire.
Exactement. C'est le moment de vous refaire la cerise, comme on dit.
Allons-y.
L'année prochaine, on fêtera les 40 ans de ce moment télévisuel culte. Gainsbourg brûle un billet de 500 francs en direct sur TF1 dans l'émission. Est-ce que vous vous en souvenez?
C'était pas l'émission de. Aussi l'émission de Drucker, là, qui s'appelait Champs-Élysées ou un truc comme
tout
ça?
Tout à fait, c'était 7 sur 7.
Ah, c'était à 7 sur 7 avec Anne Sinclair, alors, c'est ça?
Je ne sais pas si c'était Anne Sinclair à l'époque. Non, je ne crois pas.
Ouais.
Peut-être Yvan Levaille. Non, pas Yvan Levaille. Bon, en tout cas, c'était quelqu'un d'autre. Il dit à l'époque: je sais bien que c'est illégal, mais je vais le faire. Voici ma question. Est-ce que c'était illégal de brûler un billet ou ça ne l'était pas?
Eh bien, écoutez, je...
Alors, c'était illégal ou pas?
Alors, je dirais non, ça n'était pas illégal. Ce qui est illégal, c'est la contrefaçon. Je pense que brûler un billet...
Mais là, d'accord, mais la contrefaçon...
Est-ce
là,
que brûler un billet pouvait être illégal?
Alors, illégal ou pas?
Non, c'était pas illégal.
C'était pas illégal.
Vous avez gagné!
En fait, une jurisprudence de 1974 considère que détruire un billet n'est pas la destruction d'un bien d'autrui, car le billet n'est pas considéré comme la propriété de la banque centrale. Stéphane, sachez donc que si vous le souhaitez, vous pouvez brûler tout de suite un billet de 100 euros.
Il faudrait les avoir déjà pour
20,
les brûler.
20,
c'est
5,
20.
5.
C'est 20.
D'accord. On va pas s'amuser à ça.
Mais en plus, il y a une alarme incendie dans le studio. C'est un peu dommage.
C'est que ça qui vous arrête.
Parce que ça dit, si vous voulez arrêter l'émission, dites-le. Et
on va brûler un billet de 5 euros, on va arrêter l'émission tout de suite. Allez Stéphane, c'est à vous. Pour l'instant, vous êtes ex aequo, un partout. Je ne sais pas si vous avez dernièrement assisté à un concert de heavy metal, Stéphane.
Ni dernièrement, ni plus lointainement.
Peut-être connaissez-vous l'origine du geste qui consiste à brandir le poing avec l'auriculaire et l'index sorti. Vous savez ? Ouais, exactement, le signe un peu rock, tu vois. Ce signe date de 1764. Il est décrit dans le roman gothique de Horace Walpole.
Walpole, oui, oui.
Vrai ou faux ?
C'est quoi ? C'est lié à peut-être la bataille de Culloden ? Ça peut être un truc des Écossais, ça ? Qu'est-ce que c'est ce...
Non, bah, je vais pas vous le dire tout de suite, hein. Il va falloir réfléchir un petit peu.
La question n'aurait pas de sens, c'était faux. Et là, c'est très précis, Horace Walpole, son livre.
C'est ça, mais comme nous ne sommes pas des spécialistes...
Oui, mais si ça se trouve, c'est un truc d'un...
Comme mon quiz est complètement absurde, comme je ne comprends pas les
rocker,
questions...
D'un rocker danois.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
C'est intéressant, hein. C'est vrai.
C'est vrai, ben on va vérifier tout de suite.
Vous avez...
Oh, non !
Perdu.
Et non, c'est faux. Ce geste est né grâce à Ronnie James Dio, un chanteur de heavy metal connu.
Qu'est-ce que je viens de dire ?
Qui a sévi dans le groupe.
Je viens de le dire.
Bah, vous connaissez Ronnie James Dio ?
Non, mais j'ai dit, vous allez voir, c'est un chanteur de danois de heavy metal qui a mis ce truc au point.
Bah, il n'était pas danois du tout. Il faisait partie du groupe Black Sabbath.
Ah oh bah ouais, je connais très bien.
Ah oh, si, c'est...
Ah oh bah oui, mais ça, on connaît... Ça, c'est très connu, ça.
Mais je... Clémentine elle m'insulte maintenant parce que je ne connais pas.
Et est-ce que vous savez pourquoi il faisait ça ?
On va l'écouter en concert tous les deux.
Il faisait ça, Ronnie James Dio, parce que sa grand-mère le faisait aussi pour chasser les mauvais esprits.
Ah.
Ronnie nous a quittés en 2010, il avait 67 ans.
Ah, quand même, il a vécu vieux pour un chanteur de heavy metal.
Ce que ça veut dire,
okay,
c'est que Clémentine peut remporter ce quiz si elle répond bien à cette question.
Bon, je retrouve mes esprits.
Oui.
En 1944, un attentat contre Hitler en Pologne, Edgar Loos, échoue. Un peu à cause de la chaleur ou un peu à cause du froid ?
Est-ce qu'il a fait trop chaud ? Est-ce que c'était de la nitro ?
Moi, je dis que c'était trop chaud parce que ça se passait en août 1944.
Ça se passait en août en forêt. Ouais.
En 1944, donc il faisait trop chaud.
Je peux vous aider chaud, peut-être, c'est l'opération Valkyrie.
Oui, c'est ça, mais c'est ça.
Je pense que Stéphane a raison, c'est en août, donc il fait chaud. Et donc l'explosif devait être instable. Et il s'est pas... Est-ce qu'il s'est déclenché trop tôt ? Ce qui a fait quand même de gros dégâts, mais pas le dégât essentiel.
Il n'est pas mort.
Vous êtes sûr de vous ?
Oui.
Non, moi je ne suis pas sûr, mais, ça me paraît, mais je pense
vous
que pouvez, ça, sa réponse est logique.
Vous pouvez encore changer.
En fait, ce jour-là, il a fait particulièrement froid, parce que c'était la nuit tombée, et dans la forêt noire, et voilà. Donc il faisait froid, et l'explosif ne s'est pas déclenché au bon moment.
Il faisait froid, on vérifie.
Vous avez perdu.
Ah bah voilà.
Vous êtes maudite.
Ah, c'est pas de chance,
mais elle aurait pu gagner.
Oui,
si elle
aurait
dit,
pu.
Si elle avait dit que
suivi
mon conseil en disant qu'il faisait trop chaud.
Si je n'avais pas été fourbe, elle aurait gagné. Ouais. On est en juillet, il fait très chaud. Beaucoup de circonstances vont faire donc échouer l'opération Valkyrie.
Ah, j'aurais jamais pensé
parmi
à ça.
Parmi elles, le fait que le Führer ne fasse plus une réunion dans le bunker piégé où il fait une chaleur étouffante, mais dans un cabanon à proximité plus frais. Cette année, réchauffement climatique.
Ah zut, alors on a la dernière question du coup.
Eh oui, la question qui va vous départager. Howard Carter, britannique, restera dans l'histoire comme étant l'homme qui a découvert en 1922 la tombe du pharaon de la 18e dynastie, Toutankhamon.
Oui.
On a souvent parlé de malédictions touchant les archéologues de cette époque. Au bout de combien de temps est mort Howard Carter après avoir découvert le tombeau ? Vous me donnez la réponse en jours ou en mois ou en années, comme vous voulez.
3 ans.
3 ans pour Stéphane et pour vous, Clémentine.
9 ans.
C'est une joie de vous annoncer qu'aujourd'hui, celui ou celle qui gagne ce quiz... C'est Clémentine. La bonne réponse est 17 ans, donc pas trop de malédiction pour Howard. Même si la veille d'ouvrir la tombe, un cobra s'était introduit dans sa tente et avait tué son canari. Est-ce que c'est ça de la malédiction ?
Il a été maudit, lui.
Il était maudit aussi.
Ah bah oui.
Bravo Clémentine.
C'est la malédiction du canari, c'est bien connu.